12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver à mes côtés, il y a Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre journal est juste après La France bouge. En cette journée mondiale de la santé bucco-dentaire, vous allez voir que l'Hexagone n'a pas attendu pour innover. C'est ça La France qui bouge, avec vous bien sûr au 39-21.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin.
Nice sera-t-elle ce week-end le nouvel épicentre de l'acte 19 des Gilets jaunes? Pas question, dit son maire. Christian Estrosi demande au gouvernement d'interdire les rassemblements. La ville, elle, se prépare. Blocage levé à la prison de Condé-sur-Sarthe. 15 jours que les surveillants avaient entamé un mouvement de grève après l'agression de deux d'entre eux par un détenu radicalisé. Elle ne veut pas que le débat sur la laïcité se résume à un pour ou contre le voile. Marlène Schiappa sera à la baguette ce soir pour le mener au sein de son parti. La secrétaire d'État a pour objectif de faire dialoguer une majorité bien divisée sur la question. À la une aussi, les fermetures en série chez Castorama et Brico Dépôt. Le groupe anglais Kingfisher promet de reclasser les 789 salariés des 11 sites concernés en France. Le palmarès des lycées, mais au fait, c'est quoi un bon lycée? On va se poser ensemble la question ce midi. Nous irons aussi dans ce journal dans les déserts médicaux où les députés à coups d'amendements dans la loi santé veulent obliger les jeunes médecins à s'installer. Enfin, c'est mercredi. Gros coup de zoom sur vos sorties ciné. La météo, Elena Morna, aujourd'hui, tout est en hausse.
Bah oui, ne serait-ce que le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les pressions de notre anticyclone, les températures après moins 9 dans la Drôme à Sédéron ce matin, 14 cet après-midi. Arrêtez les violons. La vitesse du vent sur la Corse, 80 km/h. Et le soleil qui remonte ses rayons vers le nord, ça devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois.
Merci Elena Morna, plaisir partagé. On vous retrouve météo complète, ce sera juste avant 13h.
Europe 1.
Mais d'abord, cette grosse frayeur ce matin, 10h56 tapante. Les habitants de Gironde, de Charente-Maritime ont senti la terre trembler sous leurs pieds. Non, ce n'est pas une impression, mais un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter. Et quand je dis sous leurs pieds, c'est vraiment le cas, puisque l'épicentre, écoutez bien, était à seulement 10 km de profondeur. Julien habite à Orignolles et il était quasiment aux premières loges.
Moi, j'étais chez moi, j'habite vraiment dans le sud du 17, donc à une dizaine de kilomètres du moment où ça a eu lieu le tremblement de terre. Et j'étais dans ma cuisine et effectivement, alors moi, tout a commencé à trembler. Enfin, les lampes, les portes, donc ça a fait une petite détonation et ouais, ça a commencé à un peu trembler un peu de partout. Ça a vraiment bien secoué quand même. Il y a pas mal de choses qu'on pouvait dans la maison. J'étais avec mon petit cousin. Il a 2 ans. Il a eu peur que la maison tombe au début. Et puis après, il a eu peur pour sa maison à lui. Sur le coup, ça surprend. Quoi. Enfin, les 10 premières secondes, on se demande un peu ce qui se passe. Quoi. J'ai toujours habité dans le sud de la Charente-Maritime et c'est la première fois que ça nous arrive.
Julien à Orignolles, au téléphone Europe 1 d'Aude Vernuccio. Lui redoute de voir sa ville mise à sac ce week-end. Le maire de Nice était ce matin sur Europe 1. Christian Estrosi vient d'écrire au gouvernement pour lui demander d'interdire les rassemblements prévus chez lui samedi et dimanche pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Plusieurs appels nationaux ont été lancés. Après le chaos de Paris, ce sont ses mots, il ne veut pas que sa ville subisse le même sort.
Je demande au gouvernement de prendre les mêmes dispositions d'interdiction pour le cœur de Nice samedi prochain. Le gouvernement, en tout cas, est préoccupé et attentif et semble prêt à prendre des dispositions assez fermes. En tout cas, moi, je les demande, je les exige même. Nous sommes dans un état de droit. Manifester est un droit, certes. Mais casser est un délit et lorsque nous voyons l'évolution des choses depuis quelques semaines dans notre pays avec ces violences inacceptables, il est temps maintenant qu'on passe à une action à un degré bien supérieur.
Nice qui sera quoi qu'il en soit quadrillé puisque dimanche c'est le président chinois qui arrive sur place. Le dispositif de sécurité sera donc de toute façon revu à la hausse. Frédéric Michel, vous êtes allé vous ce matin dans le centre-ville de Nice et on se prépare des deux côtés, commerçants et gilets jaunes.
Et pour les gilets jaunes niçois mobilisés dès les premières heures du mouvement, pas question de se voir interdire ce 19e acte samedi à Nice.
On nous interdit de manifester, on manifestera, autorisation ou pas. On veut juste se montrer à Monsieur Macron qui veut nous oublier, ainsi qu'au président chinois qui, on ne peut pas dire que ce soit un symbole démocratique. Nous, on ne veut absolument rien casser. On aimerait bien rentrer chez nous. Maintenant, en 4 mois, qu'est-ce qu'ils nous ont lâché? À part des balles de LBD dans les yeux, pas grand-chose.
Si, ici à Nice, pour le moment, les manifestations se sont déroulées dans le calme. Les commerçants ont en tête les images des magasins pillés et vandalisés à Paris.
Estrosi, moi je dis qu'il a raison. Et quand il fait les choses, c'est bien réfléchi, c'est pondéré, c'est pensé. On a des t-shirts, on a des vêtements. Ils mettent tout par terre, ils saccagent tout, ils cassent tout.
Maintenant, ça suffit. On casse, on paye. Personne ne mesure les conséquences économiques pour le pays de ce qui se passe là. Parce que nous, on vit du tourisme. On déguste un maximum. Donc, stop.
D'autres commerçants ne comprennent pas la demande d'interdiction de manifester de Christian Estrosi et soutiennent les Gilets jaunes.
Nous, on est commerçants, mais je pense qu'on est Gilets jaunes dans le cœur. Je serai devant ma boutique et j'accueillerai les gens. Si je dois donner des pommes à des gens qui passent parce qu'ils ont faim, je le ferai.
Et les Gilets jaunes ont également prévu de manifester dimanche un week-end de mobilisation en raison de la présence des présidents chinois et français dimanche. À Nice.
Merci Frédéric. Et à l'instant, le gouvernement va interdire, en tout cas c'est ce que dit Christian Estrosi, les manifestations de Gilets jaunes. Voilà ce que précise le maire LR de Nice. Interrogé par l'AFP, la préfecture des Alpes-Maritimes, elle s'est contentée de confirmer qu'un arrêté était bien en cours de rédaction. Des rassemblements nationaux, il y en aura aussi à Toulouse ou encore à Montpellier, mais tout le monde a encore en tête les dégâts causés à Paris sur les Champs lors de l'acte 18. C'était pendant ce week-end que la plaque commémorative dédiée à Xavier Jugelet, ce policier tué en 2017 par un terroriste qui se réclamait de Daesh, a été souillée. Des tags, mais aussi des autocollants. Une enquête est ouverte, une plainte déposée. Et ce matin, ce sont des policiers qui se sont rassemblés en hommage devant cette plaque. Tous les syndicats étaient là pour dénoncer un acte odieux, comme le dit Frédéric Lagage, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
Ce tag a été perçu comme une blessure profonde vis-à-vis de ceux qui sont encore là, vis-à-vis de la famille de Xavier et vis-à-vis de la police en règle générale, de l'institution, de l'ensemble de nos collègues. Tout ça, bon, bien évidemment, est un acte ignoble qu'on ne peut pas accepter. On a vu ce qu'ils étaient capables de faire. On ne pouvait imaginer qu'ils aillent jusque profaner la mémoire d'un collègue qui est tombé sous les balles pour défendre la République. Il n'y a plus de sens des valeurs, tout simplement. L'objectif est de casser pour casser, détruire pour détruire. Tout ça est inqualifiable et n'a aucun sens.
Frédéric Lagage d'Alliance avec Guillaume Bier.
Il est 12h36, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Vont-ils ou non lever leur mouvement de grève? Eh bien la réponse est oui, 15 jours. Ce mercredi que les surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe avaient entamé le mouvement. Il avait débuté, souvenez-vous, le 5 mars après la blessure de deux d'entre eux par un détenu radicalisé. Mais les discussions ont manifestement fini par payer. Et FO Pénitentiaire a donc annoncé la reprise du travail par la voix notamment d'Emmanuel Guimarès.
Il a entendu les 44 revendications locales sécuritaires et donc il a accepté la quasi-totalité des revendications qu'on avait. D'abord, c'était l'absence de toute sanction disciplinaire suite à ce mouvement de grève, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de faire grève, donc ça faisait 15 jours qu'on bloquait l'établissement. Et puis ensuite, il y avait aussi la possibilité de fouiller par palpation systématiquement les visiteurs d'un détenu, ce qui ne sera pas le cas pour les autres établissements, malheureusement, pas encore, et ce ne sera pas inscrit dans la loi. Donc ça, ce sera une autre démarche, un autre combat. Et puis, il y aura une grande vigilance sur la suite, parce que il était là, ça a duré 6 heures. Pour autant, il faut que maintenant ça se mette en place très rapidement.
Emmanuel Guimarès avec Salomé Legrand. Le préfet de La Réunion vient de saisir le procureur de la République après les propos injurieux tenus par Brigitte Bardot à l'encontre des Réunionnais. Dans une lettre ouverte sur la maltraitance animale envoyée par sa fondation, l'actrice de 84 ans les accuse de barbarie. Les autochtones, dit-elle, ont gardé leur gène de sauvage. La ministre des Outre-mer, qui était sur place hier, a fait savoir qu'elle s'associerait à la plainte déposée aujourd'hui par le préfet. Et puis, Alexandre Benalla est de nouveau chez les juges. Aujourd'hui, l'ex-collaborateur du président s'est rendu ce matin au tribunal de grande instance de Paris pour une nouvelle audition sur les violences du 1er mai.
Il est 12h37, vous écoutez Europe 1, la suite du journal, Raphaël Duchemin.
Il n'était pas le bienvenu, mais ça ne l'a pas empêché de venir. Lundi soir, Tariq Ramadan s'est invité à une réunion sur les violences faites aux femmes. La conférence avait lieu à Saint-Denis, là où il habite. L'islamologue en liberté conditionnelle depuis la mi-novembre s'est installé tranquillement dans le public. Une provocation inacceptable dénoncée par la mairie, car faut-il le rappeler, il est mis en examen pour de viol. Et ce matin, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, n'a pas manqué sur Europe 1 de le rappeler.
Quand on est mis en examen pour deux faits, c'est-à-dire que ce n'est pas une rumeur, il est mis en examen pour deux faits de viol différents, dont un sur une personne vulnérable, en situation de vulnérabilité, c'est assez honteux de se rendre dans ce débat où il sait qu'il y aura potentiellement des victimes de violences sexuelles et de les obliger à être face à lui. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont quitté la salle et qui ont donc été privés de ce débat par la présence de Tariq Ramadan, qui de surcroît a amené sa fille pour prendre sa défense. En tant que parent, ça m'interpelle ce type de démarche.
Comment vous expliquez cette démarche justement?
Bah écoutez, je ne suis pas dans la tête de Tariq Ramadan. Ce que je voudrais dire en revanche sur votre antenne, parce que les élus de Seine-Saint-Denis qui ont organisé ce débat ont été un peu mis en cause sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils n'ont pas invité Tariq Ramadan et on n'a aucune raison de ne pas les croire dans la mesure où c'était une réunion publique ouverte à toutes et tous. Donc je crois que Tariq Ramadan s'est invité lui-même dans l'espoir, à mon avis, de se faire de la publicité. Et c'est un amateur de provocation, on le sait.
Marlène Schiappa avec Audrey Crespo-Marala. Marlène Schiappa qui sera ce soir en charge d'un débat sur la laïcité au sein de son parti, En Marche. Sujet explosif s'il en est, y compris au sein de la majorité. Il faut dire qu'Emmanuel Macron entretient le flou le plus total, exit le projet de réforme de la loi de 1905 et toujours pas non plus de grand discours à l'horizon. Mais ce soir, Virginie Riva, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, ne veut pas non plus qu'on cantonne finalement le débat aux seules questions qui fâchent.
Effectivement, ce ne sera pas un débat sur le hijab, a martelé Marlène Schiappa sur notre antenne. Et pour cause, le débat enflamme le groupe parlementaire. Lorsque de grandes enseignes proposent des hijabs de sport ou à destination des petites filles, deux camps s'opposent. Celui d'un Aurélien Taché en faveur d'une laïcité accommodante avec l'islam et qui compte bien profiter de ce débat pour faire entendre sa voix.
Au sein de la République En Marche et derrière Emmanuel Macron, il y a un nombre important d'élus, de marcheurs qui défendent cette vision un peu libérale-libertaire, si on devait prendre un terme un peu générique.
Et puis il y a l'autre camp, ce qui se réclame d'une laïcité stricte, c'est le cas d'Aurore Berger, de Marlène Schiappa elle-même ou encore de la députée Élise Fagelès. Le problème, c'est qu'elle aussi pense être fidèle à la pensée d'Emmanuel Macron.
Ma responsabilité politique, elle est de m'interroger sur est-ce qu'une femme vraiment peut s'émanciper lorsqu'elle est toujours assignée à sa religion, à son appartenance et religieuse et communautaire. Et là-dessus, il y a une vraie ligne, un vrai clivage dans le groupe. Moi, je m'inscris parfaitement dans la vision du président de la République.
Voilà, donc selon un expert, consulté par la majorité, l'enjeu du débat porté ce soir par Marlène Schiappa pourrait justement être de marquer un infléchissement strict en faveur de cette deuxième vision de la laïcité au sein d'En Marche.
Merci Virginie Riva.
Il est 12h40.
Europe 1.
Dans un instant, restez avec nous, le coup dur pour Castorama et Brico Dépôt. Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher ferme 11 sites en France d'ici la fin de l'année 2020. A tout de suite.
Il est 12h43 sur Europe 1, la suite du journal avec Raphaël Duchemin.
D'ici novembre 2020, 11 magasins Castorama, Brico Dépôt vont fermer en France, 15 en tout en Europe. C'est le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher qui a donné ce détail ce matin de ce qui attend les deux enseignes. La plupart des sites concernés se trouvent en région parisienne, mais aussi à Rouen, Angers ou encore à Lille. Lille où se tient ce matin le comité central extraordinaire. Lionel Gougelot, ça fait en fait 2 ans que les problèmes ont commencé pour le groupe.
Oui, effectivement, c'est le troisième PSE en 2 ans que l'enseigne va devoir subir. Après la délocalisation, souvenez-vous, en Pologne, de ses services comptabilité et un plan social qui avait supprimé plus de 400 postes fin 2017. Voilà donc la fermeture de 9 magasins Casto en région parisienne, vous l'avez dit, à Paris, mais aussi à Rouen, Angers et Lille, et 2 magasins Brico Dépôt à Calais et à Flins. Au total, 736 postes supprimés et une véritable casse sociale en perspective, selon Christelle Derien, déléguée CFDT.
Fermé aujourd'hui, alors qu'on est au 50e anniversaire, d'ici quelques semaines, de Castorama, c'est assez hallucinant cette annonce. On est tous sous le choc et on pense d'abord aux familles. Et donc oui, on est en colère aujourd'hui. Même si Castorama nous indique vouloir reclasser tout le monde, à un moment donné, ça va être extrêmement compliqué.
Alors ces fermetures, selon les syndicats, illustrent l'incompétence de la direction du groupe à réagir à la concurrence, notamment des enseignes discount. Les magasins concernés étaient en difficulté depuis longtemps, selon Jean-Paul Gattier, délégué force ouvrière.
C'était des magasins qui avaient déjà été identifiés en 2015, sur lesquels on avait demandé des plans d'action, sur lesquels rien n'a été fait. C'était une mort annoncée. Aujourd'hui, il y a une incompétence, à un certain moment, de la part des dirigeants à réagir comme il faut par rapport au marché.
Alors cet après-midi, il y aura des assemblées générales de salariés dans les magasins concernés, des employés qui devront donc baisser le rideau de leur grande surface de bricolage dans le courant de l'année prochaine.
Merci Lionel Gougelot à Lille pour Europe 1. La Commission européenne vient d'infliger une amende d'€1,490 milliard à Google. Bruxelles estime que le géant américain de l'Internet a abusé de sa position dominante en matière de publicité en ligne, ce qui est totalement illégal. Et puis notez que Bayer dévisse ce matin à la bourse. Le titre lâche plus de 13% après un revers judiciaire aux États-Unis sur le Roundup.
Il est 12h46, la suite du journal sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
C'est l'angoisse de tous les parents. Dans quel lycée mon enfant va-t-il atterrir? Eh bien, il y a chaque année un palmarès des meilleurs établissements qui est établi. C'est le ministère qui s'en charge. Mais comment faire la différence entre un bon et un mauvais lycée? Bonjour Gwenaëlle Surel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes secrétaire national du syndicat des personnels de direction. Vous pilotez la commission pédagogique. Vous êtes aussi proviseur d'un lycée en Loire-Atlantique à Ancenis. La réussite au bac, évidemment, c'est le truc auquel on pense tous en tout premier. Sauf que ça n'est pas que ça qu'il faut regarder quand on parle d'un bon établissement scolaire.
Bien sûr. Bon, les indicateurs de lycée qui paraissent aujourd'hui sont une première approche, hein, avec des éléments de variables à prendre en considération, en particulier sur la continuité dans l'établissement, savoir si le parcours se fait en 3 ans, en 4 ans, savoir s'il y a un taux de redoublement important en seconde. Et puis, l'objectif quand même dans un établissement, c'est de ne laisser personne au bord du chemin, de façon à ce que tous les élèves réussissent. Et on voit bien que cette variable dans les indicateurs de lycée n'est pas toujours prise en considération. Et pour les parents, c'est un indicateur à connaître. Le deuxième élément, c'est la réflexion sur l'orientation et la considération quand même du bien-être de l'élève. C'est-à-dire, faut-il que cet élève parte dans un lycée périphérique ou centre-ville à quelques distances du lieu d'habitation des parents pour un soi-disant meilleur lycée, alors que cet élève va perdre ses camarades et va se retrouver en seconde générale avec des classes dont il ne connaîtra personne. C'est une considération qu'il faut prendre aussi. Et puis le troisième élément, c'est la question du bac-3, bac+3, c'est-à-dire que, et là personne n'en parle parce que c'est un peu compliqué à calculer, mais la vraie question, c'est pas la réussite au bac. Tous les établissements à 5-10% près font en sorte que 90% de leurs élèves réussissent. Mais c'est la question de l'orientation et de la réussite à bac+3.
Dites-moi, on va tous évidemment se précipiter pour aller voir le palmarès, pour regarder quelle note va avec quel établissement, si on est bien dans le bon lycée pour notre enfant. Mais de toute manière, j'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix. Pas vraiment.
Ah, c'est un peu plus compliqué que cela. Il existe encore des dérogations. Je pense que parfois, il y a des contournements de cartes scolaires qui s'opèrent. Je ne sais pas si on n'a pas le choix, mais on sait que parfois, les choix des parents, y compris dans le collège, se font de façon à être dans le bon secteur. Donc, normalement, on a un choix limité, mais on a quand même encore parfois un peu le choix.
Merci Gwenaëlle Surel d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Il est 12h48.
Europe 1.
Restez avec nous, on part dans les déserts médicaux dans un instant et on va aussi aller faire un tour dans les salles obscures. A tout de suite.
Il est 12h51 sur Europe 1, la suite du journal avec vous Raphaël Duchemin.
Aurons-nous bientôt des médecins commis d'office? C'est le sens des amendements en cascade qui sont déposés en ce moment à l'Assemblée dans le cadre de la loi santé. Objectif des députés, obliger les jeunes praticiens à s'installer dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Le gouvernement est contre ce principe de coercition, sauf qu'il faut bien faire quelque chose à Vroger pour en quelque sorte leur forcer la main.
Et oui, et pour cela, les députés déploient des trésors d'imagination. Certains pensent qu'il faut frapper les jeunes diplômés au portefeuille en les menaçant par exemple d'une amende de 1000 euros par mois s'ils refusent de s'installer dans un désert médical. D'autres proposent qu'ils ne soient pas remboursés du tout par la Sécu, et le député En Marche de Gironde, Benoît Simian, qui à lui seul a déposé 4 amendements, assume, car pour lui, il y a urgence.
Aujourd'hui, il y a une urgence sur nos territoires, d'autant que beaucoup de médecins aujourd'hui vont partir en retraite et
comme
on nous annonce un creux démographique en 2025. Donc il y a une véritable urgence parce que ce phénomène de fracture territoriale va s'aggraver dans les années à venir si l'on ne fait rien. Et nous devons répondre à ce droit à la santé.
Alors en face, les jeunes diplômés sont vent debout. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose leur lieu d'installation. Ils vivent ça comme une punition, une brimade. Après 10 années d'études, ils veulent avoir le choix. Mais officiellement, ils préfèrent faire la démonstration par les chiffres que ces mesures coercitives sont inefficaces. Clara Bonavion est la présidente de l'Association des étudiants en médecine.
84% de la population réside dans une commune où il y a un médecin généraliste et 98% de la population accède à un médecin généraliste en moins de 10 minutes. Au final, on s'aperçoit que les médecins sont plutôt bien répartis. Le problème, c'est qu'on en manque, mais on en manque de manière globale. Et vouloir répartir les médecins, ce serait tout simplement déplacer les zones en tension.
Alors dans l'entourage de la ministre de la Santé, on renchérit. Si l'on contraint les jeunes médecins à s'installer dans un désert médical, le risque, c'est qu'ils quittent la médecine libérale et qu'ils partent ailleurs, à l'hôpital, dans les laboratoires pharmaceutiques, dans la médecine scolaire ou du travail, là où on les attend les bras ouverts.
Merci Ève Roger. Mercredi, c'est jour de cinéma. Bonjour,
bonjour
Monsieur Cinéma.
Tous.
Mathieu Charrier est avec nous. En salle aujourd'hui, dites-moi, le nouveau film de Benoît Jacquot sur... un célèbre serial lover.
Eh oui, Vincent Lindon en Casanova, ça coulait pas de source au départ et pourtant il se glisse à merveille dans le costume de ce séducteur. Le film commence avec notre héros qui, sur une route d'Angleterre, croise une dame à moitié débraillée. C'est la Charpillon, jeune femme légère interprétée par Stacy Martin. Il se dit qu'il va la mettre dans son lit. Elle aussi, à l'image des 142 autres femmes qui ont succombé à ses charmes, c'est le chiffre officiel validé par des historiens. Sauf que, non, elle a beau coucher avec le premier venu, lui... elle lui résiste, sans doute finalement parce qu'à la différence des autres, elle l'aime. Et ce refus, cette résistance va consumer notre Casanova, car en fait, c'est sans doute la seule femme qu'il n'ait jamais, lui aussi, aimée au cours de sa vie. Les autres étaient des compagnies avec lesquelles il a passé de bons moments, de bons plaisirs aussi, mais elle, c'était très différent. Et c'est ce qui est intéressant dans ce film, qui raconte cette époque où le libertinage était un art de vivre. Et il y a ce jeu du « je t'aime, moi non plus », le plaisir que l'on éprouve aussi, nous, faut bien le dire, quelque part, avoir ce Casanova piégé, torturé par une femme. Dernier amour, c'est donc signé Benoît Jacquot.
Et sinon, je crois que j'ai vu une affiche avec Catherine Fraud, Daniel Auteuil, Yves Lecoq. Dites-moi, sacré trio.
Oui, sacré ratage. C'est un film où rien ou presque ne va. Alors déjà, l'histoire avec Daniel Auteuil en garagiste à la retraite, aigri, fauché. Il vit avec Catherine Fraud, les deux s'engueulent, ils n'ont plus d'argent. Bon, voilà. Et figurez-vous que sa femme le trompe, ça arrive avec le voisin d'en face, Bernard Lecoq. Un jour, elle s'en va avec
lui. Oui, Bernard, bien sûr.
Voilà, Bernard Lecoq, elle s'en va avec lui, patatras, et notre Daniel Auteuil va tout faire pour la reconquérir. Alors c'est typiquement le genre de comédie dont on a l'impression que les producteurs se disent « il nous faut des têtes d'affiche, le reste on s'en fout ». La mise en scène est d'une pauvreté consternante, c'est pas très drôle, c'est pas très bien joué, franchement.
Oula.
Le seul petit plaisir, c'est de voir Catherine Fraud devant la caméra, parce qu'on la voit pas si souvent que ça. Sinon, le reste...
Et alors, combien sur 5 étoiles ?
Alors, 3 pour Casanova, ça s'appelle Dernier Amour, et allez, une pour Catherine Fraud sur 5.
Bon, merci.
Et ça lui fait mal de mettre une.
0,5.
Merci Mathieu Charrier.
Il est 12h55, Raphaël, on vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres de ce mercredi.
Europe 1. Restez avec nous si vous aussi vous êtes terrorisé à l'idée d'aller chez le dentiste. Vous allez voir qu'on a des raisons en France d'y aller parce que nous avons des talents, des gens qui savent faire, dont c'est le métier. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
La météo avec Elena Morna, première matinée printanière, elle était un peu fraîche.
C'est vrai qu'on a eu de nombreuses et fortes gelées, hein. Moins 9 ce matin à Sédéron dans la Drôme, moins 7 dans le Doubs, moins 4 à Nevers. Et on avait aussi du brouillard sur le nord-ouest, mais Raphaël, tout ça c'est terminé. Le soleil s'impose partout sans l'ombre d'un nuage sur la moitié sud et la moitié est. Beaucoup de vent sur la Corse lié à une dépression tunisienne. Et puis sur le nord-ouest, un ciel variable mais lumineux de la Charente aux Ardennes, plus nuageux, mais quelques éclaircies quand même sur les Pays de la Loire, la Bretagne et les régions des bords de Manche. Les températures, elles remontent. 10 à 19 degrés cet après-midi de Boulogne-sur-Mer jusqu'à Montpellier et Marseille. 15 à Nantes, Paris, Lyon et Toulouse. Demain et vendredi, encore plus beau, encore plus chaud. Beau encore ce week-end, mais des températures en légère baisse sur le nord.
Merci Elena.